On a su qu'on est. Bon. Bon, bah, bonsoir tout le monde.
Bonsoir,
bienvenue.
Bonsoir.
L'épisode 2, Couscous Piri Piri, édition 2020.
C'est déjà le deuxième.
Ah, c'est le deuxième, bah, le Couscous Piri Piri Café au 99 compte, comme premier épisode.
Oui.
Quand on passe une heure et demie là, donc c'est pas mal fou. Bon, ce fait un appareil, ceux qui nous écoutent, les premiers. L'autre personne qui parle, c'est.
C'est Nilton.
Nilton.
Mmh, Piri Piri.
Du couscous, du podcast Couscous Piri Piri, CCPP, sur la plateforme CAN Football Club, la poutine du soccer. Bienvenue, nous sommes en direct du Café Olympico, donc d'où les bruits de musique et de café et d'autres. Donc c'est pour l'ambiance, on est là pour l'ambiance en fait.
Ouais. On est en pleine victoire des Canadiens là, qui sont en train de tuer les Islanders de New York. Voilà.
En théorie, c'est les Islanders de Brooklyn, mais bon.
Moi, j'ai vu Mike Bossy jouer pour les Islanders de New York.
T'es vraiment vieux. Donc, je vais juste siroter ce café. Ça fait belle ambiance pour l'audio. Ah, donc, voilà. Donc, bienvenue à l'épisode numéro 2. On vient de sortir des studios de 99 avec Maxime Manoud pour parler de la signature de Victor Aniema.
C'était pas prévu, ça, hein?
Pas du tout. On était supposé venir au Café Olympico. Merci pour l'accueil de nous laisser s'asseoir au café au Myland sur de l'Esplanade. Donc, Esplanade au coin Waverly. Merci beaucoup à Olympico de nous laisser enregistrer ici. Donc, voilà, on enregistre l'épisode numéro 2. Quelques nouvelles administratives. En théorie, Nilton, ce qu'on essaie de faire cette année, faire un CCPP par deux semaines. Où on peut livrer ça de façon relax, de façon sans stress, de façon quand on peut le faire. Donc, on s'est dit un billet hebdomadaire serait une bonne chose. Ça nous a ramené au même chiffre, nombre d'épisodes qu'on a fait l'an dernier. On a fait une 20-25. Mm-hmm. Donc, si on fait billet hebdomadaire, on va arriver à 25. Puis, on espère faire plus de contenus différents. On va pas dire c'est quoi, parce qu'il faut qu'on le fasse déjà, pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut livrer,
etc. Pour pas décevoir les gens.
Exactement. On va pas décevoir, on va gérer les attentes. Donc, c'est pas mal ça qu'on essaie de faire en ce moment. Donc, le CPP va être billet hebdomadaire, donc, une fois par deux semaines. Et puis évidemment, on a tout le temps le choix. Hein. Vous allez peut-être voir des périscopes là avec Nilton et moi, après les matchs ou le lendemain des matchs. Vous voyez le CCPP comme une plateforme de contenu là, dans la plateforme de contenu canapé où on a plusieurs dénominations et plusieurs formats. Donc c'est pas mal ça qu'on essaie de faire là. Donc voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Puis regardez, la meilleure façon de supporter, en plus de nous écouter, de nous suivre sur Twitter, Nilton George, Sofiane Benzaza et aussi CAN Football Club partout sur les plateformes réseaux sociaux, c'est le Patreon du canapé. Patreon.com/CAN Football Club. Supportez-nous pour qu'on puisse continuer ça. Donc nous les moyens. Pour qu'on puisse
se payer un café pendant qu'on fait ça.
Exactement, se payer un café. Nilton a payé mon café, c'est triste. J'avais pas de cash sur moi. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Okay. Ah, on vient de donner des cannolis et de l'eau. Merci beaucoup. Hein. Thank you very much. Hein.
Merci.
Merci. Ah, on a des cannolis et de l'eau. Merci beaucoup, Café Olympico. On n'a rien demandé, c'est très gentil. Merci à Monsieur Vanelli. Hop, la photo est prise en direct. Oh. Ça, c'est un podcast incroyable.
Les gens.
Est-ce que c'est juste moi ou les gens ont lâché le podcast? Ils disent, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce podcast art, culture, fashion? Qu'est-ce
qui se passe? On va prendre une pause pour manger. En fait.
Exactement. Donc, on est content par rapport à ça. Puis voilà, on peut commencer l'épisode comme on fait. Nilton, on peut y aller parce que là, j'ai l'impression que j'ai perdu 75% du public avec mon introduction de la mort.
Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hein? Ça s'est passé assez rapidement. On est quoi? On est mardi, là?
Le 3 mars.
Le 3 mars. Alors, on a commencé notre journée avec une petite info de Premier League. On avait cette info-là de joueurs probablement. On ne savait pas trop si ça allait être annoncé la journée même. On avait comme info que c'était en cours.
On l'a eu quand? Vendredi ou samedi ou dimanche?
On l'a eu la veille.
On l'a eu lundi.
Lundi.
Ah, OK.
Ouais, lundi.
Lundi,
ouais.
Tu vois, j'ai déjà perdu le fil du temps.
Ouais.
Je viens de voir Avengers Endgame, donc j'ai un problème avec le vortex temps, spatio-temporel.
Ensuite, on s'est mis en mode recherche. Hein? On est fort, on en est en mode recherche. On essaie de faire un plus un, on voit les joueurs possibles.
Possible.
Et c'est là qu'on est tombé sur le nom de Victor Wanyama. Ma première réaction, c'est « Oh, merde! » Un autre nom compliqué.
Non, mais on l'a bien dit, Wanyama.
Oui, mais ça fait 15 fois que je le pratique dans ma tête.
Okonkwo.
Ah non, ouais, Okonkwo.
La Palainen.
Oh, ça, c'est plus facile
Tider,
pour moi.
Piet.
Ouais, Eder. Ah non, il n'est pas là. Donc, oui, tu sais, on a vu quelques noms. Comme, ben, on s'est imaginé quelques noms. On espérait au début que ça soit comme vous. Là, on espérait que ce soit un attaquant. Giroud, on l'a toujours en tête. Et là, ouais. Quand on a commencé à chercher, on est tombé sur Victor. Notre première réaction, c'est hey, « il est cher, hein? »
Il n'est pas gratuit. Il ne rentre pas dans la brigade budgétaire de l'impact qu'on a dit en début de saison. On va jeune, on va pas cher, on va gratuit.
Hein, non,
ou avec des échanges à MLS qui est un peu moins dispendieux que faire des transferts honorifiques.
C'est sûr que Tottenham, ça nous a un peu excités. On s'est dit « Ah, voilà, la nouvelle filiale Tottenham. »
Mais ce qui est marrant, c'est que... Bon, on peut le dire, on a eu 4 sources différentes.
Ben oui, oui,
on sur est, ce coup-là.
Ouais.
Ce coup-là, puis une source nous a nisé, une source nous a aidé un peu, parce que vous voulez pas trop, vous voulez pas trop se brûler. L'autre source nous a beaucoup aidé, mais sans dire de non, parce que je pense qu'elle voulait se protéger, la source.
Et t'es en train de dire qu'on n'invente rien?
On n'invente rien.
Oh, ok.
Ouais, on n'a pas un random generator de rumeurs. tu sais, on voit ça sur Facebook, genre.
Magic 8 Ball, là.
Ou tu sais, où t'as les charts, là, ouais. Choisis, prends ton mois de naissance, puis ça, c'est ton nom Kung Fu, ton nom de fighter. Puis,
on pourrait se faire un filtre Instagram.
Oui.
Tu sais, quand tu mets autour de la tête, transfert IMFC. Boum.
Hashtag CCPP.
Si t'es italien, ça fait rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Ah mon dieu, c'est marrant.
Si t'es canadien,
Jonathan, en parlant d'italien,
oui.
Café Olympico. Est-ce que t'as l'impression que c'est dans un café comme ça que l'impact a été créé? C'est, ils sont autour d'un café, ils se disent. C'est dans le genre de café où on se dit.
C'est
on
entre autres créer l'impact de Montréal dans un café comme ça.
C'est romantique.
Oui, c'est bien.
Hashtag culture foot.
Oui, c'est bien. C'est un peu trop italien, mais maintenant, avec Ronaldo lié à la Juve, c'est correct.
Ça passe bien.
Ça passe mieux.
Ça passe bien. En fait, mon boycott de la Serie A continue encore. Je regarde aucun match de la Serie A.
C'est vrai, tu fais un vrai boycott.
Oh oui, je regarde pas.
Ben attends, c'est un boycott parce que t'as pas la chaîne pour le voir, c'est plus facile ou si
c'est
tu
plus
l'avais...
facile, j'ai pas la chaîne, mais je trouvais des streams facilement. J'avais un abonnement que j'ai annulé et puis c'est tout.
Ouais.
Et j'arrête même pas des résumés. T'entends la Champions League, je triche, mais la Juve, je connais même pas les scores. Je vois les scores le lendemain. Ouais, ah, ils ont perdu.
Là, on change de sujet comme d'habitude. Ton boycott, c'est pas juste pour le public, c'est la façon qui est traitée par l'organisation de la Serie A.
Le racisme en Serie A, le racisme existe dans toute la société là.
Ah oui.
Le foot c'est un sous-ensemble, mais pour
spoiler.
Dire comment c'est géré au niveau de en tant qu'entreprise qui s'appelle la Juve et la Serie A, c'est inacceptable.
Vous savez quoi ?
Je vais pas vous regarder. Déjà votre produit est déjà assez faible en 2020 par rapport à ce que d'autres ligues font, donc c'est bon. Donc c'est correct, on passe à autre chose. On revient à Victorinium. Donc on a eu plusieurs sources. Et puis, on nous a confirmé que c'était un joueur qui joue en ce moment en Premier League.
Oui.
On savait, on nous a dit que c'est probablement un joueur qui joue à Londres.
Oui.
Donc, on s'est dit, OK, on va focuser sur 5-6 clubs.
Et ensuite, on a su que c'était pas un attaquant.
Parce qu'on a demandé, on a dit Giroud tout de suite, on s'est dit, deux sources ont dit, non, c'est pas Giroud. Donc, on s'est dit, ça concorde bien, on a la confirmation que c'est un milieu de terrain.
Fait que j'ai scrappé mon montage.
Oui. Ben moi j'avais mon taz ouais Giro.
Mais toi tu as utilisé malgré tout pour ton article. Ça c'est clickbait.
Hashtag clickbait. C'est pas les clics. Alec, tu entends Alec? C'est pas les clics.
T'as fait planter le site.
Oui.
Bravo.
Mais là j'ai vu les stats, il y a zéro stat. Donc le site a tellement planté qui a tout effacé.
On a finalement eu des clics, mais on n'est pas capable de savoir combien.
On saura jamais.
On sera toujours pauvre.
Fallait pas dire ça quand on cherche des sponsors. C'est peut-être un sponsor. On est là, tout est nous. On trouve Enya. On dit l'hypothèse que tu avais mise en premier, il faut donner le crédit, c'était Victor Enya.
Ouais.
On avait trois choix. On s'est dit, je pense Victor Enya, c'est le gardien.
Pas grave.
Enya, c'est le candidat le plus intéressant parce que tu avais trouvé que le joueur, il n'y a pas si longtemps que ça, allait se faire prêter à notre club en Ligue 1 à Amiens.
Exact. Et pendant la nuit, il y a eu. Tu sais, on avait sorti. C'était notre prospect numéro 1 lundi soir. Et là, mardi matin, il commence à avoir des infos comme quoi Wanyama, ben, probablement son destin allait être dévoilé dans les prochains jours. Le truc qui nous a chalé un peu, c'est qu'on parlait d'une nouvelle citoyenneté. Britannique, donc on parlait peut-être d'un retour pour le Celtic de Glasgow. C'était peut-être, il l'a dit, il y avait quelques dans le communiqué de l'Impact de Montréal, je pense que c'est cité là, il y avait quelques options, mais il faut pas oublier quand Thierry Henry appelle. T'écoutes,
et ça tombait bien, t'as fait un bon coup de tweet sur mon tweet et t'as dit boum, Enyema sur un candidat intéressant. C'est une façon de dire, on pense que c'est lui, mais on n'a pas la confirmation. Donc
ça m'a tenté de tweeter mon montage.
Oui, t'as un bon montage qui était prêt.
J'étais prêt.
Mais on s'est dit, comme on n'est pas sûr.
On l'a quand même envoyé une de nos sources pour le fatiguer.
Ouais. Elle nous a niaisé quand même. Mais on l'aime bien, la source. Donc c'est ça. On va arrêter de parler de source. Les gens, ils s'emmerdent déjà avec ça. Mais juste pour dire, c'est dans le processus. Et tout ça qui nous arrive depuis l'an dernier, c'est par pur hasard. Et par gentillesse, donc voilà, on remercie tous les gens qui nous aident, puis si vous aidez aussi en nous écoutant, et encore une fois, patreon.com/cafoubeclub. Donc, pour revenir, on va parler du match, New England, on va parler de la saison de l'Impact, etc. C'est quand même un couscous piri-piri. On va prendre un pari Netflix, quand on aura 5 minutes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on avait planifié cette émission, jeudi, vendredi. Ouais. Il y avait trois thèmes qu'on avait dit. On avait dit on va parler du match probablement, correct. Et on s'était dit aussi qu'on allait surtout, on allait parler un peu de la philosophie de transfert de l'Impact de Montréal et aussi, qui aurait probablement été le titre de l'épisode, mais pas cette fois-ci, l'effet Thierry Henry.
Exact.
Parce que ce qu'on nous avait dit assez rapidement, puis on l'avait dit maintes fois, puis vous l'avez remarqué avec les choix de l'Impact en termes de mercato et de joueurs, c'est qu'on n'a pas trop d'argent pour les transferts. On va chercher jeunes, potentiel de revente, ça c'est la ligne directrice d'Olivier Renard. Et aussi on va chercher pas cher, mais qui est efficace. Et on avait vu que Joey Saputo, il traite Bologne différemment de l'Impact. Avec Bologne, c'est beaucoup d'investissement. Parce que t'es à promotion, relégation, tu veux tout le temps être compétitif. Et bien, j'ai pas eu le temps de retrouver le nom.
Il y a un incitatif aussi. Finir 10e ou finir 4e, il y a un incitatif. Exactement. Financier.
Financier, par rapport au bonus, par rapport au classement.
Et en MLS, il y a des incitatifs financiers selon les positions, selon les qualifications.
Mais c'est négligeable par rapport à la Serie A ou les Olympiques, etc. Ça, c'est sûr. Surtout qu'on parle même pas du même d'ordre d'économie en termes de droits de télévision en Europe. On parle même pas de la Premier League. Alors la Serie A, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas la Premier League, mais c'est quand même assez haut. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que nous, ce qu'on voulait parler, on nous avait dit à maintes reprises depuis une semaine, donc on avait hâte d'enregistrer, c'est que il y a un effet Thierry Henry en termes d'attractibilité des joueurs.
On l'a vu aujourd'hui,
et ouais. Ça, c'est la confirmation. Donc, on a été ascoupé par notre propre scoop pour ce qu'on voulait dire. C'est un nouveau concept. Et par rapport à ce que Thierry Henry.
On est soft.
C'est ça que je trouve super intéressant, c'est que dès que Thierry Henry a été annoncé, quelques jours, quelques semaines plus tard, je ne suis pas sûr, peut-être même avant le camp pré-saison, des joueurs MLS avaient suscité un intérêt pour jouer pour l'Impact sous Thierry Henry. Il y avait des joueurs qui disaient je dirais pas non à jouer pour Thierry Henry. Ils ont pas dit qu'ils vont se faire échanger. Ils ont parlé à d'autres gens à qui on parle autour du club. Ils se sont dit, soudainement, jouer un joueur MLS qui vient jouer à Montréal, c'est pas nécessairement les mêmes critères qu'on dit, ça parle français, c'est bizarre, l'hiver. Non. Il y a une attractivité et surtout une grosse attractivité des joueurs en Premier League qui se dit, oui, moi j'aimerais bien jouer au Petit Henry. Il y a un cachet qui était assez évident. On le savait quand il est arrivé, mais quand on l'a dit la semaine dernière, on s'est dit, waouh, c'est assez hallucinant que, Il y a cette aura intéressante parce que la MLS a aussi une réputation d'être avoir une bonne situation financière. Les joueurs sont payés, il n'y a pas de problème, etc. Donc on se dit pourquoi pas. Mais l'effet de Thierry Henry était assez marqué en termes d'attractivité de mercato et puis c'était assez choquant. On nous a dit, moi je pense que le joueur qui t'intéressait à venir ici, qui serait venu si le budget était débloqué, je pense c'est Olivier Giroud.
Ouais, je pense que oui.
Par déduction de ce qu'on nous a dit, Olivier Giroud aurait été intéressé de venir à l'Impact. C'est pas nécessairement une info. Mais ce qu'on a déduit, ce qu'on nous a dit, deux joueurs au minimum qui jouent en Premier League, qui ont peut-être joué la Champions League, parce qu'on n'a pas pu confirmer ça, étaient intéressés à venir pour jouer à Thierry Henry. Et je pense que cette personne-là, c'était Olivier Giroud. Maintenant, les gens vont nous côté, vont dire, c'est n'importe quoi, ou whatever, ou peut-être c'est peut-être vrai, on est super. Mais c'était juste pour, je dis ça pour illustrer un peu ce qu'on disait par rapport à l'effet Thierry Henry qui attire les gens. Et moi, j'étais étonné par ça, malgré, par rapport à son CV de coach, qu'il est encore jeune, mais on voit qu'il est intelligent, on voit qu'il a une tête de foot, là. Mais c'était une belle surprise pour moi.
Oui, parce que, au départ, tu sais, on avait dit que Thierry Henry venait avec son réseau de recrutement. Peut-être qu'on pensait pas aux gros noms. On pensait plus à un réseau d'agents, une espèce de réseau avec les affiliations avec Arsenal, avec Barcelone, tout ça. Mais finalement, tu sais, oui, t'sais, son réseau va s'étirer beaucoup plus large en Angleterre. On le voit avec Tottenham. Mais ce qu'on est en train de voir, comme tu viens de dire là, c'est que son pouvoir d'attraction va au-delà du réseau. Ça va aussi dans le sens que les joueurs vont avoir cet intérêt-là de venir jouer pour Thierry Henry, même si c'est un coach recru, juste pour vivre cette expérience-là. Parce qu'ils voient que c'est pas évident. Là. Si Thierry Henry avait été embauché, disons, pour Barcelone, tu sais, il y a plein de joueurs que ils n'ont pas besoin de tirer Henry pour aller à Barcelone. Ils vont aller à Barcelone de toute façon. Puis il y a plein de joueurs aussi qui ne peuvent pas aspirer à jouer
exactement
pour Barcelone. Mais là, avec la MLS, ça vient chercher un contexte idéal pour des joueurs comme ça, comme les fameux joueurs en fin de carrière, mais qui peuvent encore donner des minutes de qualité.
Tout à fait.
Qui peuvent aussi apporter ce pouvoir de marketing-là qui vient. Un Giroud qui vient à Montréal, ça va apporter ce qu'on appelle souvent les Eurosnobs. Quelques touristes vont venir voir. Quelques-uns vont finir par être accrochés par ce club-là.
Ça fait partie de la réalité.
Et ça fait partie de la réalité. Je veux dire, ça se passe partout. Des fois, ça se passe mal dans certains clubs. Je pense que c'est Dallas qui ont... Dallas et Houston qui ont fait une promotion avec la venue de Chicharito. Ça a pris 2 heures où il a fallu qu'ils le retirent parce qu'ils allaient, ils poussaient le marketing un peu trop loin. Mais tu sais, il faut pas avoir honte de ça. T'sais, un club, c'est beaucoup de choses différentes. Et Thierry Henry va amener ces jeunes-là avec potentiel de vente. Et ils vont aussi amener, si on est capable, avec le budget qui va être disponible par, donné disponible par Joey Saputo, ces stars-là qui peuvent être intéressés par une petite run en MLS.
Non, ça c'est vrai. Puis c'est un très bon point, Nathan. Puis ça donne un peu de base, que ce soit à côté couverture médiatique, que ce soit à côté de la ville, ce qu'on veut.
Ça commence déjà, on le voit. Les conférences de presse
sont super intéressantes.
Elles sont
instructives.
Elles sont populaires dans le sens, on est en début de saison. Il y a toujours plus de monde en début de saison dans les conférences de presse. Mais on les voit régulièrement, les conférences de presse. Là, on voit beaucoup, beaucoup de couverture dans les conférences de presse. Parce que les médias savent que, oh, attention, à tous les jours, on peut avoir un beau quote. Hein? Peut-être qu'on en parle un peu plus tard. Ça, les médias veulent avoir ça, ce genre de pas de phrases buzz, là, mais un peu ça. Tu sais, des phrases qu'on peut réutiliser de jour après jour, parce qu'une semaine de foot, c'est long. On peut pas juste parler de stratégie.
Tout à fait.
De temps en temps, avoir cette phrase-là qui va attirer l'œil du public et qui va ramener la nouvelle en premier. Thierry Henry, c'est une machine à faire des quotes. Bon, là, on a vu Thierry Henry de bonne humeur dans un contexte de victoire.
Et encore, et de bonne humeur, c'est relatif, hein, comment il était de bonne humeur. Je trouve ça assez intéressant.
Quand tu vas avoir une petite séquence de match un peu plus compliqué, avec un petit drama IMFC, avec une question...
Les mêmes questions qui peuvent être répondues différemment et aussi des questions qui tuent.
Il va réagir. Moi, j'ai hâte à ça, à une petite...
Une petite tension.
Ouais, exact. Ouais.
Des silences, un silence radio.
J'ai hâte de voir Thierry Henry en mode montée de l'air.
Je pense que ça va arriver assez vite dans la saison. Je dis pas que l'Impact va perdre 15 matchs de suite là, mais pour dire, il y aura ses propres frustrations, mais même aussi, il y a tellement une haute exigence par rapport à lui. On connaissait l'histoire par rapport à l'exigence de son père, qu'il fallait qu'il soit quasiment parfait, marquer 15 buts par match, etc., pour devenir le professionnel qu'il est devenu. Mais on le voit dans sa façon de parler, qu'il y a vraiment une très grande exigence. Il y a une attente très haute parce que il l'a connu comme joueur. Donc lui, il a rien à apprendre de personne, entre guillemets. Il a quasiment tout vu. Mais il a appris de Arsène Wenger, Guardiola.
Mais là, il est dans un contexte parfait parce qu'il est en mode professeur devant des joueurs, devant les médias,
qu'il
devant
écoute.
La foule, qui écoute sans trop rouspéter.
Et dans une ligue, il n'y a pas de relégation.
En plus.
Donc, tu as le temps de travailler et encore pour la énième fois, Thierry Henry s'en va nulle part. Il y a un contrat de 2 ans, il va finir les 2 ans au minimum.
T'as vu mon visage. Tout se peut.
Il va le finir volontairement, disons.
Et mettons que ça va pas bien Tottenham dans 18 mois.
Tu penses vraiment que Thierry Henry va aller coacher Tottenham?
Pour toi, Reg.
Ça va être assez intéressant. Reg, il doit sentir comment Reg en ce moment avec les gars de Tottenham. D'autres fans, mais bon, je le connais, il est assez cool avec le foot, mais en tant que fan d'Arsenal, Reg, il va vraiment pas trop aimer tout ce qui est Tottenham. Et je respecte ça. Mais c'est ça, c'est... Puis bon, gros crédit à la question de Sid. Il y aura la conférence de presse d'après-match New England où il parle de la défense à 3, défense à 5. Donc il y a un peu l'interagit avec Thierry Henry qui lui répond avec intensité et avec intelligence par rapport à son concept. Donc une question qui a fait le tour de la planète quasiment.
C'est fou, hein?
C'est fou. Puis Sid est devenu une star. Sid est déjà pour moi une star média. Là.
C'est drôle parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Certaines personnes ont vu comme une attaque.
Oui, mais
à la question. Mais pourtant,
mais juste qu'ils connaissent pas le personnage Thierry Henry. Ouais. Il est comme ça. Il va te parler. Tu joues avec le PlayStation avec lui. Il va te parler de la même façon pour dire pourquoi t'as pas fait une passe au centre, etc. Donc ça, c'est classique de ce qu'on connaît de Thierry Henry. Du moins de l'image qu'on a. Puis on le voit avec son entrevue avec Olivier Dacour sur le Canal Football Club. Le Canal Football. On le voit où il est beaucoup plus posé. Mais on voit une intensité dans ses paroles. On voit où il s'applique. Donc c'est super intéressant.
Et on voit aussi Olivier. C'est un peu fort. Là,
Dacour.
Oui,
les gens pensent qu'on parle d'Olivier Dacour.
Oui, Olivier Dacour. on le voit pratiquement en admiration. Et c'est un coéquipier, là. Il l'a côtoyé sur le terrain.
Bien joué contre lui, en sélection, oui, c'est vrai.
Ils sont censés être d'égal à égal, mais on le voit, là, il y a un méga respect. Là.
Oui, oui.
Un méga, méga respect pour le joueur qui est, puis aussi pour la tête de foot.
Oui.
Et on le sait que potentiellement, ça peut complètement mal finir. Mais potentiellement, on peut être au début de quelque chose de spécial.
Tout le monde veut qu'il réussisse.
Oui, on veut.
Tout le monde dans son entourage.
On veut que ça soit. Exact. On veut vivre ce que Barcelone a vu avec Guardiola. C'est un gars qui arrive et là, tout d'un coup, tout est possible après ça. Le potentiel, ultimement, peut-être un jour, on va voir Thierry Henry à la télévision coacher Arsenal, coacher Barcelone, coacher le PSG, peu importe, et on va se dire, merde.
Il était passé par nous.
Il était sur la rue Sherbrooke il y a 2 ans.
Oui. Bon, d'abord à la rue Pierre de Coubertin, dans une dalle de béton. Ça, on va jamais oublier ça. Ouais. Et puis, c'est le gars qui nous a enfin donné un trophée de la CONCACAF Champions League.
Oh boy.
Oh boy. Ouais, la prédiction.
Oh là 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 là. Qui sait?
Bon, ça conclut le chapitre Thierry Henry. On parle du match.
Lequel?
Ah non, on a déjà parlé. C'est fini.
It's over.
Mais non, tu voulais parler d'autre chose sur
Thierry Henry? Non, ça va.
On y va. Belle victoire quand même.
Oui. Belle victoire méritée. Mais faut pas oublier qu'on est passé proche. Au moins à 2 occasions d'une catastrophe.
Tout à fait. Le poteau qui dit 2-2, ça c'était clair.
Faut pas l'oublier. Personne n'en parle. À part Thierry Henry.
Il le dit souvent. Est-ce que tu as ce qu'on disait pendant des années? Pourquoi les gens parlent comme s'il y a juste l'impact sur le terrain?
Ouais.
Et Thierry Henry dit, il a une autre équipe devant nous. Et ça, c'est le pragmatisme que j'adore en lui. Qu'on a tous entre nous, quand on se parle dans les chats, avec Sid, avec Alec, avec tout le monde du Can FC, même de nos amis et collègues dans le foot média montréalais, c'est qu'il y a le concept. C'est pas des plots devant toi. C'est des joueurs qui veulent te faire mal, qui veulent te faire perdre,
qui réagissent à ce que tu proposes, qui proposent quelque chose de nouveau.
Qui s'adaptent, qui t'adaptent. C'est une bataille, c'est des échecs.
Et le coup du hasard, là. On oublie, il y a plein de choses, là. Tu sais, Seattle, par exemple, là, son champion MLS, ils sont passés à une contre-attaque de Dallas qui a été mal gérée. Ils auraient été éliminés. Tu sais, on oublie souvent, petit geste. Tout change, ça peut changer super vite. Le match à l'Impact de Montréal, l'Impact l'a super bien géré. Il méritait la victoire. Malgré tout, il aurait pu sortir de là avec un match nul ou voir une défaite. Ouais. On est bon pour critiquer la VAR.
Ouais.
Hein? La VAR, c'est la pire invention au monde. Là.
Sauf quand ça t'arrange.
Mais personne n'en parlait.
Positif. Ça a sauvé le match de l'Impact.
Parce que sur le terrain, les arbitres n'ont jamais vu leur jeu. Là.
Même moi, je ne l'ai pas vu. J'avais un doute sur la télévision. Sur le terrain, tu l'as pas vu.
Non, impossible. C'est impossible.
Sur la télé, je me suis dit, est-ce qu'il y avait hors-jeu? Mais tu sais, c'est mon cerveau qui a réagi ça à mon intérieur. Je suis un arbitre et je dois siffler ou pas siffler. Je siffle pas. Le temps de réaction est tellement petit et tellement rapide, tu n'as aucune façon de le voir.
Mais ce qui est rassurant dans ce match-là, c'est que la façon qu'ils ont gagné ce match-là, on a l'impression qu'ils sont capables de le reproduire et que c'est une formule, une recette possible pour gagner. Les deux autres matchs précédents, ça a pris ça?
Ça a pris ça, était meilleur en milieu
de terrain. On a utilisé une stratégie en espérant qu'elle fonctionne longtemps. Finalement, elle a fonctionné jusqu'au bout.
Ouais.
Ils n'ont pas eu besoin d'adapter sa stratégie parce qu'on a marqué rapidement, on a pu rester défensif. Au match retour, on a été défensif pour débuter le match.
Est-ce que tu as l'impression que Thierry Henry a donné trop de respect au milieu de terrain de Saprissa, même s'il savait qu'elle allait subir? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu trop de respect ou c'est...
Je pense que c'est les joueurs. Je pense que c'est plus les joueurs que Thierry Henry.
Ils ont juste subi.
Parce que sur le bord du terrain, tu le voyais souvent, là, Thierry Henry demandait de l'action, demandait un peu de risque, on demandait les balles en profondeur. Et les joueurs voulaient pas porter cette responsabilité-là de faire le mauvais geste, de causer le but qui allait faire perdre le match. Tu sais, l'équipe s'est dit... Ben, tant que ça fonctionne, on continue. Et Thierry Henry était en mode pragmatique pour ses deux premiers matchs. Mais au match contre New England, c'était d'autres choses. Là. C'était clairement un système de 3-5-2. Dès le début, dès la première...
Avec une envie offensive assez claire.
Et c'est ça, dès les premières minutes. Roguillard et Corrales étaient hyper hauts. Mais là, ça fait beaucoup de minutes pour ces gars-là. À gauche, qui va jouer à la place de Corrales pour le dépanner en cas de blessure ou pour lui le faire respirer? À droite, c'est qui encore?
Est-ce qu'il y a un gaucher? Je pense que ça va pas être là ou Binks. parce que Binks en défense centrale ça bouge pas. En tout cas on a parlé sur Twitter sur 91.9 avec Maxime Van Hout, on a parlé à force à mesure la défense à 3 ou 5 là. Non, ça c'est intéressant, je t'avoue, mais bon, ok, il faut qu'on en parle. Orotti a marqué un but incroyable.
Incroyable.
Sinon les gens disent
j'ai sauté.
Ah bon? Moi j'étais waouh, chaque mon frère, mon petit frère m'a dit, puis on a fait waouh, regarde le but, c'est incroyable.
Mais tous les partisans, on est rendu au point. T'sais, l'année passée, on était un peu écœurés par ses ratés. Là, tout le monde veut qu'il réussisse. Tout le monde, il n'y a plus de hate sur Borouti. On a souvent blâmé l'absence de Nacho pour expliquer la fameuse chimie qu'elle a. Non, tu sais, ça n'avait aucun lien. Là.
Il y avait un lien, un petit lien.
Il joue mieux pratiquement sans Nacho. Il joue encore mieux cette saison parce que on le voit libéré dans son rôle. Il n'y a pas le poids de l'avant-centre.
Bon, moi, je pense qu'il arrive aussi. Je pense que le reste de l'équipe match. C'est quoi le mot en français? Merde, match. Il match son intensité. Son intensité qui était un peu frivole, il était un peu partout, on ne savait pas ce qu'il faisait vraiment. Il courait partout, je pense. Maintenant que le reste de l'équipe suit un peu son rythme, entre guillemets, là. Et puis si on ajoute ça au pragmatisme de Thierry Henry, je pense que ça marche bien. Juste pour vous dire, si vous nous écoutez en ce moment, jouez avec le son, parce que je ne suis pas très bon à enregistrer son enregistreuse, donc si vous voyez que je parle trop fort, je suis en train de jouer avec le son, donc désolé. Là, Nilton, son microphone est beaucoup plus bas que le mien, donc j'ai l'impression que ça marche bien, donc je joue avec, donc si vos oreilles percent, je suis désolé, il y a des choses qu'on ne pourra pas enlever au montage. Donc c'est ça, oui, pour revenir sur Orotti, honnêtement, on a vu quelqu'un qui a profité de Nguyen qui s'est fait avoir à jouer un peu haut, et je pense qu'il voulait jouer le hors-jeu, j'ai l'impression, ou peut-être ils ont juste joué haut, puis Tyler, boum.
Ils se sont plus fait prendre haut que d'autres choses.
Ouais, enfin. Il a vu la passe, puis belle passe de Tyler, qu'on avait dit avant, enfin, son rôle de relieur comme il le faut, pas avec une grosse tendance côté gauche, il adore jouer côté gauche, que ce soit en termes de passe ou en termes de jeu, mais on voit clairement sa distribution qui est super importante dans le match. C'est ça son rôle, c'est les Tyler de l'équipe d'Algérie qui joue avec Mahrez et Slimani, c'est le Tyler de Bologne, même les deux versions de Bologne, c'est même le Tyler de l'Inter Milan où c'est très difficile que ça marche à l'Inter Milan depuis des années là, sauf récemment, mais c'est enfin le joueur, le box to box, mais qu'il faut qu'on l'encadre, il faut que tu le grattes dans une sorte de cage, tu sois pas cette cage là pour que tu puisses être efficace, et je pense que c'est ça que Thierry Henry va faire, il va être efficace.
Oui, et avec Victor, soit à ses côtés ou qu'il lui donne quelques minutes de repos, on apporte tellement plus de variantes dans le jeu. T'sais, l'Impact de Montréal, bon, n'importe quelle équipe qui joue toujours de la même façon, éventuellement, ils vont se faire apprendre. Il faut être capable de s'adapter, comme il dit souvent Thierry Henry, à ce que l'équipe en face propose, mais aussi selon les circonstances de match. Là. Est-ce qu'on est en mode défendre? Est-ce qu'on est en train de subir du pressing? Est-ce qu'on est en train de poser du jeu? Et avoir tous ces éléments-là en place et occuper les bonnes chaises, ça va faire toute la différence. Faut pas oublier que la saison passée, on a utilisé Tsafir comme ailier gauche.
Ben oui, c'est fou. Dans un 4-3-3, il était dans le 3 du haut.
Et il a joué hors position.
C'est assez fou.
On comprenait. Et il a quand même donné des minutes de qualité là, comme ailier gauche. Là, tout le monde va occuper un peu plus son rôle qui les convient un peu plus. Et même Orotti, qui devrait avoir un profil d'avant-centre, on le voit sur le terrain, sa façon de jouer est tout autre qu'un avant-centre. Tu sais, souvent, je t'avais proposé d'utiliser Orotti là, comme milieu et tu riais de moi, mais tu sais, quand on défend, on défend en 5-4-1 et Orotti occupe son couloir droit de façon hyper efficace.
Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, à un moment, le gars est là, il est payé cher. Tant qu'à utiliser, qu'il soit efficace pour qu'il te fasse gagner, ça, j'ai encore pris avec ça. C'est plus un peu. Honnêtement, l'an dernier, on était un peu rebelles, toi et moi, par rapport à tout ce qui se disait. Puis, tu sais quoi? On a décidé de s'exprimer de façon assez directe et franche de ce qu'on pensait. On ne suivait pas la ligne directrice de la CRTC du Food Media qui nous impose ce qu'on doit penser. Et voilà, chacun gardera son opinion, puis. On s'est un peu démarqué par rapport à ça et je suis pas en train de nous lancer des fleurs juste pour dire Orotti, j'étais convaincu par son atout, qu'il soit un atout pour l'Impact l'an dernier avec l'effet Piatti. Au début, ça marchait, après Piatti s'est blessé, puis Rotis s'est perdu. Ça, c'est correct, j'ai le droit de me tromper. Les trois matchs, j'étais rejoint tout de suite que Rotis, ça n'avait pas marché. Et je trouve que c'est très important de voir. La même façon que je disais que Tyler joue différemment avec d'autres joueurs, il va s'adapter par rapport à son style, parce que lui, c'est un joueur assez caméléon dans ce qu'il fait. Rotis, je pense à la même chose. Je pense que beaucoup de joueurs, Kyoto, tu dis, tu vas jouer 5 matchs avançants, il va le faire.
Ouais.
Il a la capacité de le faire, mais non pas pour 20 matchs, mais il va sacrifier. Donc je pense que c'est ce genre de, comment dire, de chapeau que Thierry Henry va demander à tous ses joueurs de porter pour qu'ils soient tous efficaces dans ce qu'ils font. Je pense pas qu'on va demander à Fanny d'être latéral droit à 38 ans. Il peut le faire pour dépanner. Il l'a déjà fait avant. C'était un latéral droit à un moment donné dans sa carrière. Et je trouve que c'est ça qui va faire la différence pour ce club-là, parce que pour que tout le monde soit clair dans son rôle et que le collectif soit clair. Et je pense que c'est ça dont l'Impact a besoin. Et Thierry, si on va être la bonne personne pour toi, du moins, il dit les bonnes choses. Puis ce qu'il dit, on voit s'appliquer. Encore une fois, ça fait juste 3 matchs. Un match à MLS. Comme je dis, moi, j'aime voir les tendances sur 4-5 matchs pour voir qu'est-ce que ça vaut tout ça. Puis on va voir comment les autres clubs vont réagir. Parce que les autres clubs vont s'adapter. Il faut faire des voyagements, des déplacements, des décalages horaires. Il faut s'habituer à ça. Il y a des nouveaux joueurs. On va voir comment il va arriver. Puis voilà. Puis on va essayer de s'habituer à l'arbitrage à MLS, n'est-ce pas? On ne sait jamais.
On a plusieurs questions, puis c'est un sujet aussi qui est assez récurrent en début de saison, c'est Samuel Piette. Les gens sont...
Très dur, trop dur.
Oui.
Assez réactif. Un peu trop, je trouve.
Souvent, à la fin d'un match, je suis surpris par le nombre de commentaires négatifs sur Samuel Piette. Puis après, je me questionne, c'est est-ce que c'est moi qui est devenu trop fanboy de Samuel, puis qui voit plus les critiques et qui voit plus les mauvaises choses qu'il pourrait faire sur le terrain, ou... Où Samuel connaît vraiment un mauvais début de saison. Tu sais, Samuel Piette, quand il est arrivé à l'Impact de Montréal, est arrivé comme milieu défensif, un vrai milieu défensif, récupérateur, devant sa défense, dans un milieu à trois.
Et quelque chose qui manquait à l'Impact depuis quasiment une décennie,
exact.
Je suggère.
Les fans de l'Impact de Montréal ont appris c'était quoi un milieu de récupérateur quand il est arrivé. Et son rôle était clair et net. Récupérer le ballon, le donner rapidement à quelqu'un, ouais. Même que vers la fin, on critiquait ses nombres de passes latérales ou vers l'arrière.
Tout à fait.
Mais il finissait le match avec 90-95% de ses passes, une vingtaine d'interventions, un vrai pitbull, gagnait tous ses duels. Là, on critique quoi? Les passes qui sont ratées vers l'avant, que habituellement il faisait pas? Est-ce que c'était...
Est-ce qu'on peut lui donner un temps d'adaptation pour voir comme il va évoluer à l'intérieur de ce nouveau système, cette nouvelle vision de jeu que Thierry Henry essaie d'implanter?
Rater une passe, là, vers l'avant, en profondeur, est-ce si un gros problème que ça? Quand ils vont en avoir une dans le match qui vont fonctionner et que c'est clairement l'objectif du club?
Exactement. Maintenant, si tes passes ratées donnent des contre-attaques à chaque fois, ça, c'est un problème. Ouais. C'est plus qu'est-ce que la passe donne et quelle est la conséquence de la passe ratée.
Moi, ce que j'ai beaucoup vu, surtout au match contre New England, c'était... C'était un problème de timing. Souvent, que ce soit Samuel ou d'autres joueurs, souvent les passes étaient soit trop appuyées, ouais. Ou il était derrière parce que le gars venait de faire un appel. Ouais. Il y avait vraiment un problème de timing. C'était pas des passes qui étaient mal faites, c'était des passes qui étaient faites au mauvais endroit.
Oui, je vois ce que tu
dis. Ce qui est un peu différent. Là. Oui, c'est pas une question d'habilité, c'est une question de
c'est pas le mouvement et les mécaniques, c'est l'exécution vers la direction.
C'est l'appel de balle qui est pas fait de la bonne façon. C'est lui qui a pas compris l'appel de balle.
C'est ça, une communication.
Et ça, tant que c'est ça,
une lecture de jeu différente.
Exact.
Ça arrive. Puis on protège pas la pièce pour le protéger.
Moi, c'est ce que j'ai vu.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Et ce que j'ai vu aussi, des duels un contre un. Oui, on a perdu. Mais il en perdait aussi un peu avant. Il s'était peut-être moins critiqué. Je sais pas. C'est peut-être moi qui vois ça tout croche. Mais je trouve qu'on est... Puis là, le timing est mauvais parce qu'on va chercher un autre milieu. Fait qu'on dit mauvais début de saison de Piette. Ouais. On va chercher un gars de la Premier League pour 3 ans. Mais Samuel, il est signé pour longtemps. Là, aussi.
Oui.
Il va nulle part.
Puis ça, le capitaine qui va remplacer Raitala. Mais honnêtement, il faut pas... Si je dis que je vais attendre 5 matchs pour l'Impact, je vais attendre 5 matchs pour Samuel Piette aussi. Faut attendre, faut voir ce que ça va donner. Parce que non seulement on voulait voir une tendance sur plusieurs matchs, là on aura une tendance sur plusieurs matchs dans un 4-3-3 peut-être, dans un 3-5-2, dans un 3-4-3, dépendant de l'adversaire. Si un adversaire qui joue avec deux joueurs forts dans l'axe, comment ils vont réagir? Est-ce que Piette va descendre? Est-ce que Piette va vraiment être un numéro 6, stay at home, milieu défensif? Donc il y a toutes ces choses à prendre en compte. Puis honnêtement, je trouve que Piet est, de ce que je voyais, il a tout le temps l'air d'avoir un, d'être un bon passeur, donc je suis pas stressé pour ça. Donc on a, je pense qu'on a répondu aux questions sur Piet. On a eu une, on a combien de questions, Hilton? 100 questions aujourd'hui? mon Twitter est à cracher, là. J'ai pas pu tout suivre. Merci encore à vos questions, hein. Et si vous voulez nous supporter, patreon.com/CanFootballClub.
Tu veux qu'on passe aux questions?
Let's go for it.
Notre ami LP, Guir nous demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un attaquant de plus ou on serait mieux avec un milieu ou un latéral?
L'Impact a besoin de buts. Si c'est un latéral, va marquer 15 buts, va le chercher.
Si Marcelo est disponible.
C'est ça, t'as besoin de buts, même. T'as besoin de buts. Maintenant, est-ce qu'un attaquant va être bien? Je pense pas que c'est une mauvaise chose d'avoir un attaquant. Mais
en début de saison, les latéraux, les buts.
Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place.
C'était comblé. Le problème, c'est franchement, c'est Corrales à gauche. Il n'y a plus vraiment de doublure avec l'absence de Raitala en 3.
À droite,
un, deux, trois mois. À droite, ça devrait être Baya, mais il faut voir ce qui va arriver.
Je pense qu'il y a encore à 2 semaines de revenir, et encore.
Sinon, tu sais, ça va dépendre aussi de la façon de jouer que Thierry Henry veut jouer. Tu sais, s'il ne joue pas vraiment avec un buteur pur devant et il veut avoir ce mix-là d'attaquant intérieur avec rapidité, il n'y a plus vraiment de place à ce moment-là comme un attaquant. Mais, comme tu dis, des buts, on va avoir besoin de buts. On va avoir besoin d'un gars qui est complémentaire, parfaitement complémentaire à Boyan. Parce que pour l'instant, il est très, très seul dans sa façon.
Oui, il est très seul. Justement, c'est bizarre. On n'a pas fait Boyan une fois. Tu sais, on parlait de chercher des buts. Boyan, c'est la clé offensive de l'Impact. Tu sais, peut-être il est petit, peut-être il est souriant, il est trop gentil avec ses adversaires, whatever, quelle que soit l'image que vous voulez lui donner. Mais je trouve qu'il est pas mal, Boyan. Moi, je trouve que j'ai hâte de le voir éclore de plus en plus, être de plus en plus disponible physiquement. Et je pense que dès que le club va pouvoir s'installer dans le coin adverse de façon systématique, honnêtement, excuse-moi là, le Boyan au match aller, là, sa prise il était excellent.
Il était
agressif, il était offensif. C'est lui qui menait l'attaque. Si c'était pas lui, l'Impact marque 0 but à Saprissa. C'est lui le catalyseur de ça. Quand New England, où New England va t'attendre, où New England va poser le jeu et aussi détruire le tien, je pense que Boyan a un peu plus de difficultés. Je pense que tout le monde est blessé. Aussitôt de la saison, j'ai l'impression que tout le monde a une blessure ou quelque chose.
Mais là, clairement.
Mais en termes de la question de Ludo, LP, pardon, ouais. C'est. Honnêtement, oui, ils ont besoin de buts, man. Moi, ils peuvent venir de. Moi, et en disant ça, j'oublie Boyan. Donc, c'est bien que Boyan.
Mais Boyan, on le voit, là. C'est pas le finisher qu'on a. Tu sais, qu'on pouvait peut-être espérer.
Il se met pas dans sa position. C'est Kyoto qui est le finisher.
Oui,
mais
les fois qu'il se trouve en position de finir un jeu, tu sais, c'est pas le finisher
Nathan,
qu'on
au moins il tire. Au moins, il tire.
Oui, je le sais. Non, je le sais. Mais c'est pas une attaque sur Boyan, mais. C'est pour rendre clairement, c'est pour clarifier son pouvoir sur le terrain. Lui, il est là pour créer le jeu, il est là pour animer le jeu. Mais Boyan, si on pense qu'il va nous sortir un 10-15 buts, on est fou.
S'il joue comme ça.
Sofiane, tu viens de mon côté.
Non, regarde. Le Boyan de Costa Rica me fait dire qu'il va marquer 10 buts. Le Boyan de New England va me dire je ne sais pas encore. Est-ce que c'est trop tôt, Nilton? J'ai du mal à évaluer et je respecte. T'as évalué Routy en 2 secondes, t'avais raison l'an dernier. Novilo, on l'a évalué en 1 seconde et demie, on savait que. Attention.
En une photo.
En une photo, on savait. Faut une photo de passeport, on le savait. Mais honnêtement, je veux que ça marche pour Boyan, mec. Je veux que ça marche. L'Impact a besoin de Boyan. Boyan a besoin de l'Impact. Et je trouve que son apport offensif va être la clé. Maintenant. Si, regarde, moi je pense qu'il marque 1 ou 2 buts, il va débloquer. Je pense que c'est la confiance dont il a besoin. Après, le but qu'on a TFC l'an dernier. Il a la capacité. Maintenant, c'est une question, il faut que le jeu se construise pas autour de lui. Il faut qu'il soit mis dans des dispositions pour qu'il puisse être libéré et juste tirer. Il va y arriver. Moi, j'y crois à 100%. Je pense que c'est un gars de 10 buts. Il a le talent pour, physiquement, est-ce qu'il va survivre, c'est ça qu'on
veut. Beaucoup plus qu'il existe.
Oui, mais
c'est pas grave.
C'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Mais il faut juste que les gens soient conscients que lui, il va avoir une belle saison s'il va chercher 15 passes. Pas si marque 15 buts. Si on a besoin de 15 buts, on est dans le trouble.
Mais moi, je veux des vraies 15 passes. Je veux pas des passes MLS. Là. Je veux des 15 passes décisives.
Ah non, on était en Amérique du Nord. On donne des passes partout.
10 alors. 10, je veux 10 vraies passes.
Il va peut-être en avoir 20 en MLS.
OK, 15 qui passent. C'est ça que je veux dire. 15 passes
qui... S'il gagne le face-off, ça fait une passe.
Le face-off. Et le tip-off.
Steve McDonald nous demande beaucoup de questions. Il nous demande entre autres une qui est intéressante, là, plus que les autres, on en a un peu parlé. Binks à Bologne, avant juin 2021, après un match et demi.
Regarde, il est assez jeune. Là. Est-ce qu'il va vraiment vouloir aller en Italie à 19-20 ans?
Ben, c'est sûr, le salaire vient avec. Il ne dira pas non.
Pour être sur le banc et tout?
Ah, ben, ouais, c'est sûr.
C'est plus ça. Lui, il a besoin de jouer. C'est vrai, peut-être que ça ne te dérangerait pas, mais regarde, il va finir la saison.
Mais
déjà, il va déjà commencer la saison. Il faut déjà qu'on la commence. On vient d'arriver.
Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, mais là, tu peux faire du, comme on dit au Québec, de la belle argent. Tu sais, je veux dire, si après deux saisons, on voit que c'est un pilier en défensive de l'Impact de Montréal, que c'est un des meilleurs en MLS, il va aller chercher un salaire intéressant qui peut-être il aurait pas en Serie A parce que comme tu dis il va être plus sur le banc, mais oui, l'objectif de ce genre de recrutement là de Binks, c'est la revente, que ça soit le tremplin vers Bologne ou que ça soit ailleurs que Bologne. C'est sûr que c'est l'objectif. Et Binks dira pas non à un club un peu plus huppé avec Binks, des aspirations européennes, ça c'est sûr et certain.
Binks, il veut juste commencer sa carrière professionnelle, puis tant mieux qu'il la commence avec l'Impact, puis on dit tant mieux. Et c'est vrai, c'est un très bon but par rapport à ça. Mais honnêtement, regarde, la question est bonne, Steve, mais on va pas commencer à parler de la vente d'un joueur avant même qu'il a joué 5 matchs en MLS. Mais merci pour la question, Steve. Je comprends d'où ça vient.
Antoine Sylvain nous demande pourquoi on peine toujours autant sur les corners. Ouais, la grande question. Si toi et moi, on avait la réponse, on l'aurait texté. Regarde,
du moment qu'Oruti a pris le corner, il faut qu'il continue. Que Tyler, c'est une catastrophe, alors il faut arrêter. Là.
Oh, il faut garder cet extrait-là. Là.
Puis les confronts directs, est-ce qu'on peut laisser à Boyan de temps en temps, Saphir? Encore une fois, un autre staff, mais il tire quand même les coups francs. Donc à un moment donné, il doit bien tirer à l'entraînement, non?
C'est sûr. On connaissait des gars qui étaient bons à l'entraînement sur les coups francs.
Andrew Wenger?
Non.
Matteo Marcuzzo?
Non, le fameux gars qui était sur le 11 au Kozu.
Jason Vargas.
Ça va pas bien, lui.
Le
hein?
Special field kick, field goal.
Lui, on l'a vu venir de loin. Là.
Attends, c'est qui la plus grosse? Je dirais pas que c'est des fraudes, mais les plus grosses déceptions. Vargas ou Antivero?
Ben, c'est Vargas, il a coûté plusieurs millions.
Ouais.
Il faut pas oublier.
Il a été acheté au FC Montréal 2 ans avant, mais pour qu'il disparaisse. Non. On n'a jamais compris cette transaction de l'Impact.
On est rendu ailleurs. Ouais, tu sais, dans 10 ans, ça va faire partie de nos quiz.
Il y aura un Pictionary soccer à MLS. Qui suis-je?
Avec la question bonus à la fin, le latéral gauche jamaïcain.
Sean Francis.
Beaucoup de questions sur les rumeurs, mais finalement, en fin de journée, c'était réglé.
On a tout répondu.
Mais Sam pose une bonne question. Quand avec les rumeurs des nouveaux milieux de terrain, tu sais, qu'est-ce qu'on peut penser de Sabat, de Maciel? Ça fait déjà qu'il y a choix.
Profondeur, championnat canadien, profondeur. S'il se blesse, si des gens se blessent, il faut qu'il soit prêt pour prendre la place. On a parlé au 91-9. T'as besoin d'avoir un 15 partant.
Oui, et éventuellement...
Plus un banc.
Éventuellement, il va falloir vraiment activer les options de prêt. Il faut envoyer ces gars-là jouer des minutes. À la limite, on n'est pas obligé de les envoyer pendant un an complet. Là. Si après 6 mois,
C'est compliqué avec l'Impact. Les prêts, c'est compliqué.
Pourquoi ça serait juste compliqué avec nous?
Mais prêter où?
Il y en a plein de clubs en Amérique du Nord. En USL, ils ont 3 divisions. Ouais, Canadian Premier League, il y en a. À la limite, tu peux prêter en Europe. Je veux dire, t'envoies Chouanière. Là.
On continue. Je prends la réflexion ailleurs. Disons que le prêt est facile. Je ne pense pas que le prêt, c'est la partie la plus difficile. Maintenant que tu m'as convaincu assez rapidement, c'est plus le suivi du prêt. Comment est-ce que tu fais un suivi sur ton joueur en assumant qu'il joue pour dire est-ce que les minutes qu'il joue avec ce club-là vont m'aider pour l'intégrer dans mon 11 partant ou dans mon 18 de match dans 6 mois? Ou est-ce qu'on se dit, il joue, puis on se verra à la pré-saison 2021 pour voir ce que tu veux?
Il ne faut pas faire un crépeau. Il ne faut pas juste se débarrasser d'un gars. Il faut voir ce qui se passe avec ce gars-là.
Oui, mais qui va faire ce suivi-là? Tu as besoin d'un staff. Il y a Vassili. Il y a Kevin Antunes, le scout, mais à un moment... qui a le temps de faire ça?
Hein, qui a le temps de faire ça?
Dis-moi,
qui a le temps de voir 90 minutes de jeu?
OK, dis-moi.
Ben là, je veux dire, René, tu peux embaucher... Voyons donc, c'est quoi cette question-là? Tu peux embaucher quelqu'un pour faire ce genre de suivi-là? C'est pas ça le problème. Si ça, c'est un problème de l'Impact de Montréal, on est vraiment dans le trouble. Là, je veux
pourquoi
dire...
tu marcelles comme ça? Pourquoi tu marcelles? Je mange mon cannoli, contre-tragie de Café Olympico, merci Café Olympico pour le cannoli, et tu marcelles.
Non, comment? Tu es en train de me dire 90 minutes de jeu à gauche, un autre 90 minutes de jeu à droite.
Mais qu'est-ce que tu fais avec ces suivis-là? Où tu les vois et comment tu traduis ce que tu vois pour le transposer, pour dire ok, lui il est prêt dans 6 mois pour jouer avec pour moi, pour revenir dans mon camp, mini camp pré-saison durant l'été. Tu sais, comment on fait pour gérer ça?
Comment tous les autres clubs dans la planète font ça?
Je ne sais pas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs en prêt des clubs de MLS réussissent leur carrière quand ils reviennent du club? Je veux savoir qui a réussi, quel joueur qui est un prospect mais pas assez bon pour rester avec le club de MLS.
Tu me prends flat-foot un
non,
peu
non,
mais
je te... Je te demande pas genre nécessairement
comment il s'appelle Adams de New York Red Bull, c'est pas ça qui est arrivé, qui était dans la réserve.
Ouais, oui, mais là l'équipe des Red Bulls 2 était beaucoup plus organisée,
ouais,
comparable.
Il jouait en USL puis il est monté, il y a des, oui, tu sais, oui, je peux comprendre que cette façon de faire là en MLS, tu sais, c'est pas la façon qu'on voit un peu à gauche à droite, mais c'est la façon de faire avec nos jeunes là.
OK, les jeunes doivent jouer, mais regarde, si on voit c'est Maciel c'est
oui.
Ça maintenant Maciel
là, il est occupé là, lui est arrivé au Québec, il pensait qu'il allait tomber 3 pieds de neige, là il mouille, le pauvre il doit être tout mêlé,
il doit se croire à Vancouver. Attends, il y a tu me dis que on va envoyer Maciel.
Et
Sabah en prêt, puis il n'y aura plus personne sur le banc en fait.
Moi, je parle plus de Chaumy et de Sedich.
Non, Chaumy va jouer.
De moins en moins.
Il va jouer.
Il s'est fait dépasser par Sedich.
C'est deux rôles différents. Sedich, c'est beaucoup plus offensif, relayeur, box-to-box offensif.
Chaumy, le pauvre, il ne jouera plus jamais.
C'est dommage.
Oui.
Moi, je l'aime bien.
Oui, je sais, mais il ne jouera plus jamais.
Moi, je pense pas. On se parie un café olympico gratuit.
Ouais. Logiquement, il serait prêté 6 mois. Là. Ça serait des best pour lui.
J'avoue, pour ces joueurs-là, je dis pas Chaumy, mais les joueurs qui sont sur Ando Babo, comme on dit, je pense que la Canadian Premier League sera la ligue de choix. Là. C'est pas loin. Tu peux les suivre avec ton abonnement One Soccer. Donc ça va aller. One Soccer, si vous écoutez, vous êtes sponsor.
C'était pas comme un mois gratuit, ça, One Soccer?
Je l'ai pas encore fait.
Je l'ai pas encore fait. Moi, je l'ai fait pour les qualifs.
Whatever, man.
Ouais. Tu m'enverras ton
code. Regarde, je prends ni aucun abonnement pour avoir des matchs de foot. J'ai pas de câble. J'en regarde quoi comme match en fait? Je fais quoi?
Je sais pas. Comment tu fais pour commenter l'Impact?
Je sais pas. J'invente. Regarde, je me base sur le résumé, je me base sur les vidéos Twitter du club. Tu sais, là du club où même s'ils se prennent des buts, on voit pas les buts adverses. Donc je pense qu'on a pas qu'à gagner 3-0.
L'année passée, on s'est pas pris un but selon Impact Media.
Ah, j'adore ça!
Une bonne question d'Étienne Bélanger. Il nous demande, ça serait quoi le meilleur duo d'attaquants? On a eu quelques attaquants là, comme pair. T'sais, tout le monde est en santé. On joue avec... admettons qu'on joue de la même façon, là, avec la fameuse ligne de 5 qui devient 3, Boyan qui descend en milieu offensif. Qui va le mieux compléter, si on veut, ce genre de schéma-là avec les latéraux qui montent, Boyan en retrait? On va alimenter qui?
Je pense que c'est Kyoto.
Et?
Là, par défaut, c'est Kyoto Routi, hein, pas mal. Si Boyan est derrière eux, il joue à personne d'autre. Est-ce que j'oublie un joueur déjà?
Oui. Toi, moi.
Hein?
Toi, tu irais avec qui?
Ah, Jackson, hein? Ah, c'est vrai, il y a Jackson Hamel.
Moi, c'est Lapalainen à gauche.
Ah! Tu sais quoi? Moi, Lapalainen au concours, je les ai dans une case, il vous a blessé. Tant que je ne dois pas jouer encore une fois, je ne sais plus. OK, c'est vrai. Oh là là. Oui, Lapalainen, j'avoue, comme une pointe. Ben, pas une pointe. Comme un faux attaquant. Il peut faire mal. Il peut faire mal. Non, c'est vrai.
Mais tu sais, ce qui est dommage, on ne l'a pas vu encore.
T'as raison.
Je ne sais pas s'il peut être aussi efficace à droite. Mais à gauche, il est vraiment dangereux. Kyoto, est-ce qu'il peut être aussi efficace à droite qu'à gauche? Mais c'est ça qui est le fun. Mais... On peut rapidement changer. Orger, c'est quand même notre MVP. Ils ont des caractéristiques. Ouais, les quatre, MVP, si on veut, là, ils ont des caractéristiques totalement différentes.
Ouais. Mais t'as pas envie de les maximiser comme ailier? Lapalainen comme ailier qui qui prend l'espace sur un côté qui coupe et tes latéraux qu'ils ont montés, à un moment,
c'est pourquoi
la défense à 3 va limiter les choix.
Et c'est pour ça que moi, je pense qu'éventuellement, on va tomber en 4-3-3 parce qu'on peut faire ça comme ça avec tout le monde est en santé, Piet est milieu récupérateur, donc c'est ton troisième défenseur. T'as le duo Tider.
J'aimerais te croire, Nilton.
Ouais.
Mais je pense que le staff veulent que leurs joueurs occupent l'espace le plus possible.
Mais 4-3-3, ça occupe l'espace.
Oui, tu occupes l'espace, mais je pense qu'ils veulent tellement défendre leur arrière et s'assurer. J'ai l'impression que le concept d'étirer sur la largeur, c'est hyper important. J'ai vraiment cette impression-là que c'est primordial. J'ai l'impression que tu n'as pas le choix.
Petite question pour toi, parlant d'arrière. Là. Clément Diop, là. C'est-tu juste moi ou...
Il exagère sur ses plongeons. Est-ce qu'il exagère certains arrêts?
Il donne toujours l'impression de faire son vidéo de plage.
C'est vrai.
Il est tout le temps en train de se garocher.
C'est quoi le mot qu'on cherche? Embellir? Est-ce qu'il y a de l'embellissement?
Il met de la moutarde avec sa moutarde.
Est-ce qu'il met du wax?
Patrick Roy, il mettait de la moutarde quand il faisait un save.
Référence OK, attention. Référence OK.
C'est pour le peuple. Non, mais c'est arrivé 2-3 fois.
Est-ce que sur certains arrêts, je dis, est-ce qu'il exagère un peu?
Oui. Est-ce qu'en exagérant, il me fout le trouble? Oui.
Est-ce que quoi, il lâche le ballon ou...
Je sais pas.
Je sais pas.
Le poste qui est pour moi le plus difficile à juger, c'est gardien. Parce que je suis nul. Bon, c'est pas comme si j'étais bon ailleurs, là, mais.
C'est difficile. Quand
mais
même.
Dans ma tête, je suis bon ailleurs. Mais gardien, des fois, je comprends pas. Il fait des arrêts, là. Il envoie le ballon si loin. Ouais.
C'est vrai.
des fois, c'est possible juste de le garder proche. Bref. Il en a sauvé plus que d'autres choses, mais...
Est-ce que c'est marrant que tout le monde oublie que Bush faisait des arrêts incroyables depuis 2-3 ans? Est-ce que t'aimes ce concept? Bush n'existe pas. Comme Thanos, on élimine la moitié de la planète. Hop, tu n'existes plus, mon gars!
Ce qu'on n'oublie pas, c'est que Bush était sur le trading block aussi. Donc...
Oui, et ça coûte cher, mais bon. Encore une fois, il faut que t'aies un bon backup.
Nicolas Forget nous demande si l'expérience Waterman fonctionne. Est-ce que la CPL devient une priorité pour les clubs canadiens de la MLS qui pourront y piger pour éviter de prendre des places internationales?
C'est ce que fait le Renard depuis le début. Il a essayé de chercher Tristan Borge.
Ouais.
Waterman est là.
Ouais.
C'est qui était dessus aussi? Il était dessus un autre joueur, j'oublie. En tout cas, il y avait Waterman. Waterman, on se calme. Hein. Il est bien, parce qu'il joue avec Fanny et Binks ou avec Raitala. Une défense à 3 à 5, Waterman, c'est parfait pour lui, pour s'intégrer.
À 75 000 par année, il fait une sale job.
Il est athlétique. Je connais pas trop sa relance, mais honnêtement...
Il
y a un joueur que j'aimerais voir jouer maintenant, un peu plus vieux, dans cette équipe-là, Vandry Lefebvre. J'aimerais voir Vandry Lefebvre, même s'il est peut-être pas aussi rapide que Waterman. En termes de vitesse, je sais pas. Vandry Lefebvre, il a tout le temps été critiqué de pas être super rapide. Pour le marquage et les courses, je ne suis pas sûr. S'il m'entend Vandou.
Parce que Lefebvre avait ça, cette assurance-là sur le terrain.
Oui. Puis sa relance était superbe. Excuse-moi, Vandry Lefebvre avec une relance superbe.
Je me souviendrai toujours de la fameuse fois où il a taclé le caca là, qui est revenu.
Il a détruit là, ça, au stade olympique.
J'espère qu'il y a la vidéo. Non, mais. Mais moi, ce que j'aime de Waterman, c'est que dans sa tête, ce n'est pas un joueur de la CPL.
Non, non, c'est un joueur.
On le voit, là.
Non, non, il a élevé son niveau. Avec le jeu et surtout qui regarde, excuse-moi là, c'est quand tu joues avec Rod Fanny, les gens jouent quoi maintenant? Dota, Warcraft, tout ça là, t'as plus 12 dans ton t'as plus 12 dans ta confiance, t'as
chez
plus
nous, c'est du Fortnite.
Ouais. Tu joues avec Fanny, ton aura augmente de plus 15, toutes tes statistiques augmentent de plus 15 quand t'as Fanny à côté de toi. Et en plus de Binks avec la confiance tranquille, même Raitala, je trouve que c'est un gars qui aide beaucoup qui va aider les. En fait, tu as des joueurs qui vont aider d'autres joueurs qui sont moins expérimentés à se développer assez rapidement. Tu as une leçon, quelque chose qu'on a pas vu avec Divayo malheureusement ou avec Drogba. Donc, je pense que Drogba a beaucoup aidé Anthony Jackson-Lamelle en termes pour comment s'entraîner, et l'exemple à suivre, etc. Mais honnêtement, Waterman, moi j'aime bien, mais tu sais, il est bien encadré, il est dans un système parfait. Tu as Fanny, tu as Binks, tu as Raitala, tu as Henry, t'as le conseil des charges avec Ampadu, Wilfried Nancy, Bernier, tous ces gars-là, ils vont bien. Rémi Vacoutre, on parle de gens d'expérience en tant que coach, en tant que joueur. Henri, il est passé par l'académie, d'Arsenal un peu. Il a été mentor des attaquants belges en sélection nationale. Patrice Blagny, il est repassé par l'académie où Nancy connaît tout ça. Donc, encadrer des jeunes, il les met dans des bonnes conditions, ça c'est important. Waterman, ils l'ont pas mis titulaire dans un 4-3-3 club américain.
Il s'est retrouvé là rapidement à cause des circonstances.
Exactement. Ouais. Et puis, encore une fois, Olivier Renard va aller chercher du Canadien. Je pense qu'on pourrait répondre à la question, il va y aller sans faute parce que c'est pas cher, c'est bon marché. Et ça coûte pas de place à l'international.
La prochaine étape, c'est l'intégration des jeunes de l'académie. Là.
Oui, ben les deux là, c'est Giraldo et Kishan.
Kishan Ferdinand.
Kishan Ferdinand. Ils sont adorés par Thierry Henry.
C'est probablement les prochains.
Mais il faut les encadrer, puis il faut que ça marche.
Oh, et puis on l'a vu.
J'en ai marre des prospects qui marchent pas. T'sais, il y en a un qui est là. Je sais pas trop ce qu'il va faire, c'est Balou. Je me posais encore des questions.
Aïe, c'est fou.
Parce que mais il a la compétition. Donc je comprends pourquoi il va pas titulaire. Moi je sais pas pourquoi les gens l'ont mis comme titulaire. Genre, on va voir ce que ça va donner. Surtout dans un système qui n'est pas le 4-3-3. Mm-hmm. Puis t'as Okonkwo, t'as Lapalainen, t'as Kyoto, t'as Oruti. Il y en a du monde. Donc tu prends tout ça en même temps, ça te fout. Oh là là, c'est CPP.
Tu es déjà fatigué là?
Non.
Tout va bien. Maximus nous demande qui sera les Antivero, Vargas et Novilo de 2020.
Pourquoi il est négatif comme ça?
C'est notre
influence. Est-ce que le CPP, on est négatif?
On attire les négatifs. Sais-tu quoi? Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas.
Et c'est tant mieux parce que là...
Ils ne seront pas restés après le camp de Floride, en Floride. Ils auraient été dégagés.
Si on arrête de prendre ces fameux guests-là trop chers, là, tu sais, on l'avait dit pour Novilo, c'était incompréhensible. La somme d'argent est mise sur un joueur qui avait tellement de points d'interrogation. Tu sais.
Novilo,
tu sais, le plus gros point d'interrogation, on l'a aujourd'hui, c'est avec Victor, parce qu'il y a son historique de blessure.
Tout à fait. Parce que c'est un gros investissement.
Exact. Mais tu sais, ce genre de risque-là, c'est naturel de le prendre parce que un joueur de sa qualité ne serait pas disponible s'il n'y avait pas un petit point rouge à côté de son nom. Donc,
non, c'est vrai.
Mais des gars inconnus comme Antivero, Vargas ou Novilo, où on avait juste des points d'interrogation, où on tentait de nous le vendre comme de next best thing.
Mais on a essayé d'acheter ça. On a essayé d'acheter, on dit on va attendre. On a vu, on s'est dit on n'est pas convaincu. Attendez, OK, on attend. On n'est vraiment pas convaincu. Ouais, vous êtes négatif. OK. Ouais.
Mais
là, on fait quoi maintenant? On fait quoi? On est poigné avec pas d'argent. On a tellement pas d'argent que Bernadello, qui était DP, est revenu comme pas DP parce qu'il n'y avait plus d'argent.
Exact. Là, c'est fini.
Ils ont tout pris, les jeunes, comme argent.
Nous faire remplir que Novilo, c'est pratiquement un joueur TAM ou DP au besoin.
Novilo, c'est le joueur, avec le CD qu'il avait, c'est un joueur qui vient à laisser.
Ben oui. Tu l'essayes. Trois mois, tu le laisses courir un peu, deux, trois fins de semaine à Montréal. Et là, quand tu reçois deux, trois photos de Novilo, tu dis OK, on le sort rapidement. Puis quand on voit jouer un Vargas ou un Antivero, puis on dit oh, merde, on a mis autant d'argent.
Ouais.
Là, on n'a pas ça. Et c'est juste normal au niveau professionnel où on est rendu pour l'Impact de Montréal de ne pas prendre ce genre de risque.
Non. Olivier Renard va faire du money ball. Il n'y a pas beaucoup de budget en termes de transfert. Il y aura du budget salarial minimum. Mais lui, il est là à faire du money ball le plus possible. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fasse. Mais il y aura des antiviraux, encore une fois. Tous les clubs ont des antiviraux. Ça arrive à tout le monde, même le Real Madrid. Mais.
Mais ils sont internationaux.
Exactement. Mais il faut juste. Il faut accepter l'erreur et la corriger rapidement. Mais je trouve que, comme Thierry Henry est menotté en termes de budget, il va essayer d'être efficace le plus possible. Il faut qu'il convainque les boss, puis pour le moment, ils sont convaincus.
Il y a une question qui c'est peut-être un sujet qu'on voulait aborder. Il parle des assistances avec le potentiel de demi-finale, ainsi de suite. Tu sais, est-ce qu'on peut espérer des grosses assistances? Toi, c'est quoi ta position? Moi, je l'ai déjà assez écrit là, sur Twitter, mais...
J'ai du mal à suivre tout ce qui s'écrit sur Twitter. Je suis
mais
perdu.
C'est quoi ta position sur cette conversation-là des assistances?
Regarde, elle est ni mauvaise ni bonne. Ça dépend du contexte. Et surtout, et je reviens, dans quel contexte on parle des assistances? C'est ça que je me demande. C'est quoi le contexte exactement? On se compare à qui? On se compare à quoi? Et surtout, quand on a tendance à se comparer à d'autres sports, déjà, tu me perds parce que je peux pas faire le comparatif. Puis, on se compare à quoi exactement? Moi, je me dis, on se compare à la capacité du stade. Parce que le stade olympique, si tu fais un buzz événementiel, tu peux avoir 35 000. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas eu ce moment, Pachuca, Cameron Porter, l'Impact Montréalais? Donc, tu n'as pas l'anticipation du prochain match. Parce que je pense qu'à la Louenze, à la maison, il y avait 35 000. en tout de 40 000. Ouais,
ouais. Mais il faut pas oublier, les prix étaient différents.
Oui.
Là, le prix pour les prochains matchs, c'est autour de 50-60. Les pieds, il est un peu plus cher. Si on passe à la ronde suivante, c'est 75.
Ouais.
Les plus chers, ensuite, la finale, ouais, c'est 100 $. Ça, c'est plus le même. Mais moi, là, c'est plus la pertinence du sujet.
Oh non, OK. Le sujet est...
Tu parles à quelqu'un, la première chose, une des premières choses qu'on va te demander, c'est « Pis, tu auras bien du monde à soir? »
Oui, parce que c'est un monde que tu partages avec d'autres gens.
Tu penses-tu à ça quand tu vas à un match?
Moi, regarde, j'étais au stade avec toi, puis tout seul aussi, puis ailleurs, pas juste dans Galerie Presse, bah, du moins pas l'an dernier en tout cas.
Moi, jamais.
J'étais nulle part. Mais pour dire, tu peux avoir un stade de 16 000 ou même 19 000 au stade Saputo, puis j'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde en termes de bruit et d'ambiance. Surtout l'an dernier, c'était catastrophique en termes d'ambiance. Quand je regardais des matchs à la télé, on le voyait, puis tout le monde me disait que non, c'était pas bien, puis ça parlait, puis ça gueulait, puis c'était un certain mécontentement. Au stade olympique, c'était pas 45 000 au vu l'ambiance. Moi, je regardais le match à la télé de contre New England, j'entendais rien. J'entendais un écho, et ça demandait du microphone de la station qui diffusait pour dire ce qu'ils choisissaient de mettre ou pas comme son. Moi, le sujet était pertinent, mais on en parle tellement, que c'est parlé par n'importe qui, n'importe comment. D'une bonne ou mauvaise façon, chacun fait son truc, mais c'est devenu un sujet tellement ressassé que je suis lassé, j'en ai marre. Puis on n'est pas qu'à dans une conversation saine sans qu'il y ait une sorte de ah, t'as tort, non, c'est pas ça. Oui, le Canadien, ah, les Alouettes, regarde Atlanta. Oui, mais comparons le comparable. Plus ça. Je trouve que le sujet est tellement lassant. Je dis, OK, on va en parler, mais c'est quoi le contexte? C'est quoi le but? C'est ça mon point.
Est-ce que tu vois ce genre de conversation ailleurs dans le monde sur les assistances?
Dans le foot, non, parce que c'est le sport numéro un ailleurs.
Oui, mais peu importe, là, même si c'est le sport numéro un,
le Canadien, non, il se débat souvent.
Les stades sont pas pleins ailleurs. Là. Oublions la Premier League. Là.
Oui, oui.
En France, pas plein. Là.
Non, ils en parlent. Ils en parlent. En France, ils en parlent par rapport à... Depuis les gros investissements étrangers qui arrivent dans les différentes ligues européennes, mm-hmm, où tout le monde se tape de niveau, je vois qu'en France, quand j'entends des émissions de radio et des télé, ils parlent déjà des ultras qui sont de plus en plus, qui essaient de se revendiquer de plus en plus. Il y a sorte de, eux, ils passent par une transition de ultra à consommateur là. Le PSG est passé par là, puis c'est assez complexe. Je suis pas un expert sur ça là, mais c'est un sujet pour une autre fois, mais c'est haut niveau. Mais il y a ces débats là, mais nous, on a même pas les débats d'ambiance ou de culture foot. On les a un peu plus là avec différents intervenants. Mais c'est plus par rapport. C'est tout le temps genre, mais il y a 19 000, pourquoi il y a 25 000? Tu sais, ils sont 25 000, pourquoi ils sont pas 35? C'est une demi-finale. Ah, pourquoi ils sont pas 55? On s'arrête où? C'est quel chiffre va faire plaisir à tout le monde sans arriver à la capacité maximum du stade? C'est quoi le chiffre magique? Dis-moi pour qu'on soit content. Quoi le consensus?
Je pense de mémoire. Les records d'assistance en CONCACAF, les 5 meilleures assistances, il y en a 2 de l'Impact de Montréal.
Ouais. Demi-finale et finale.
Then what?
C'est quoi le problème?
Non, mais puis il se passe quoi après ça? Il se passe rien?
Non, parce que c'est un événement, c'est un one-shot. Mais regarde, l'Impact veut vendre une histoire. C'est ce qu'ils font avec leur série de vidéos, l'Impact Montréalais. C'est intelligent. Ils veulent vendre une histoire, ils veulent ressasser le passé.
T'as-tu été invité?
Non, ils n'ont pas invité pour ça. Non, regarde. Déjà, il faut le mériter. Les gens le méritent plus que moi de très loin. Moi, je suis personne. Arrête de faire semblant, je suis personne. Non, c'est vrai, je blague pas. Je suis pas sarcastique, je ris pas là. I'm a nobody, man. L'Impact ne devrait pas m'utiliser pour community marketing. Surtout qu'on est outscoop à chaque fois. Là, je pense que. Je suis pas mal sûr que le compte Twitter, l'Impact Montréal, m'a muté. Je suis pas mal sûr.
Qui t'a muté?
Oui,
ça serait une erreur.
Ils me répondent jamais. Ils me font jamais de like.
Qui?
Pourquoi il ferait ça?
Like,
c'est mon hypothèse du complot. Mais par rapport à l'assistance, c'est un sujet qui peut être très intéressant, mais il est tellement parlé via le prisme du Canadien. En plus, ça va tout le temps avec la couverture médiatique. Assistance, couverture médiatique. Assistance,
ça, il va falloir faire un spécial couverture médiatique.
On peut en parler maintenant, on peut prendre 5 minutes.
Si tu veux. Vas-y.
Non, mais pourquoi ce débat est revenu encore? Pourquoi on en... Parce que pendant 2 semaines, les gens se plaignent alors que, volume...
Attends. On fera pas semblant. Le débat arrive parce que de temps en temps, il y a des tweets qui choquent. Qui choquent dans le sens... Qui choquent dans la version québécoise là, qui met les gens en colère.
OK.
Parce qu'ils voient...
Mais récemment, c'était quoi? Est-ce que c'était la retombée du débat médiatique sur le Canadien à Télé-Québec?
Peut-être.
C'est avec Arcadio,
peut-être.
Tout ça, ou genre.
Peut-être, oui.
Est-ce
oui,
que c'était
oui,
une oui. conséquence une semaine oui. après, on commence à en parler,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, hein. oui. Ben, il y a deux affaires, il y a deux angles. Il y a. Puis probablement, pour en parler, comme dirait Richard Labbé, il faudrait quelqu'un de l'autre côté. Salut Richard, c'est sûr que tu nous écoutes. Il y a le partisan qui est très sévère et qui demande de la qualité et qui n'accepte pas les erreurs flagrantes. Et de l'autre côté, t'as le média mainstream, hors soccer, qui trouve le partisan de l'Impact de Montréal...
lourd.
J'allais dire F lourd, tu sais. Très, très lourd. Et ça, je pense que le partisan est pas au courant. Tu sais? Je vais parler au niveau collectif.
Et surtout que les deux se parlent
pas. On est pénible.
On est lourd.
On demande très lourd. Beaucoup et on pardonne pas. On n'est pas là pour faire apprendre au boomer qui a suivi le hockey depuis 35 ans, ouais. C'est quoi un 4-4-2, ouais. Tu vois, j'allais dire 4-4-3.
Les gens demandent beaucoup, mais est-ce qu'ils donnent beaucoup?
Ouais, exact. Donc, on se retrouve ça.
Que tu donnes?
Et là, on se retrouve avec un face-à-face où ils veulent pas comprendre. Un veut pas comprendre l'autre et vice-versa. On est là en mode confrontation.
Ils ont des quiproquos. Ils ont même pas la même conversation. Un dit, regarde, je te parle de l'impact. L'autre dit, non, moi, je veux la qualité. Moi, parce que les gens, parce que ouais, je parlais avec, ouais, j'étais dans un petit tweet thread là, il y a quelques jours, là, ou la semaine dernière, où je disais, dire qu'il parlait de couverture médiatique de l'impact, ce terme-là n'est plus bon.
Non,
il faut
vrai.
Que tu me dises,
tu
veux quoi? La qualité? Parle-moi de la qualité. Tu veux quoi? La quantité? Parle-moi de la quantité. Dis-moi ce que tu veux. Il faut que chacun exprime ce dont il a besoin, de ce dont il veut, pour qu'on puisse savoir. Regardez là, si Léger veut faire un sondage pour nous gratuitement, puis sonder toute la population qui aime le foot autour de l'impact, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils donnent les résultats, ça nous fera un plaisir d'essayer de répondre à la demande là. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me baser sur Twitter pour répondre à l'émotion des gens, et je comprends cette émotion, c'est normal. Mais excuse-moi, en termes de volume, est-ce qu'on peut dire qu'il y a au moins 10 podcasts qui parlent de l'impact?
Non,
littéralement. Il y a au moins 10 podcasts qui parlent de l'impact. Je ne peux même pas dire qu'ils parlent de foot, qui parlent de l'impact.
Ouais.
Il y a au moins 10 podcasts dont 2 ou 3 font partie d'un média, minimum 2 ou 3 font partie d'un média mainstream, de Québécois, Urbain Média, etc., qui ont du contenu hors podcast qui parlent de l'impact régulièrement. On parle de deux diviseurs télé, deux radios, et je parle même pas des journaux, etc. Donc à un moment, on parle de quoi? Ok, c'est pas la qualité que tu veux. C'est pas, ok, il y a le volume, mais c'est la qualité que tu veux pas, que tu n'aimes pas. Ok, tu veux quoi? Des podcasts, tu veux de la vidéo, tu veux une émission télé, tu veux, je sais pas moi, tu veux quoi? Ok, l'antichambre. Ah oui, c'est l'antichambre. L'antichambre n'a pas eu d'après-match, après le Costa Rica, après le match retour.
Ouais.
C'est ça, ils ont pas eu de hockey. Ok, c'est pas bien. Je trouve que c'est dommage. Mais l'antichambre, ça va à l'avance que c'était planifié. Puis je me sens mal pour Olivier Brett et Vendry Lefebvre. J'ai arrêté de voir le match 10 minutes vers la fin. Parce que j'ai dû bouger ailleurs, donc j'ai vu ça sur mon téléphone, sur un stream. Donc j'ai pas pu voir c'était quoi l'après-match de Brett et Lefebvre en studio, je pense. Ils étaient en studio, c'est ça? Non, ils étaient au stade. Ils étaient au stade. À Montréal.
Oh oui.
Ils étaient au stade, ils étaient sur le bord du terrain.
Non, au stade, ils l'ont fait. C'est au match aller.
C'est au match aller, exactement. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours.
Ça, c'est un autre truc.
Il y a tout le temps ce trigger, je me dis,
moi,
ok.
Moi, c'est un autre truc qui me fait rire, là. J'ai déjà eu cette conversation-là avec quelqu'un des médias, puis c'est ça que je trouve dommage.
Il y a un disconnect grave.
C'est qu'on n'est pas capable des fois de discuter, d'émettre une opinion parce qu'il y a tout de suite un blocage en face.
Même derrière, c'est rapide, ouais.
Pourquoi la télévision fait plus de stock pour lors des matchs à domicile? Je comprends pourquoi c'est plus facile,
ouais.
Mais c'est complètement illogique.
Ouais, parce que
à domicile, t'as 15, 20 000 personnes qui, eux, consomment du Impact de Montréal, qui ne verront pas ta consommation. T'sais, au lieu d'avoir un avant-match de 15 minutes, ils font une heure et demie quand on est à Montréal.
C'est
vrai. Je ne le verrai pas. Après, ils vont dire, ouais, mais quand on fait des trucs, il n'y a rien, il n'y a personne.
Il n'y a pas d'audimat.
Je ne suis pas devant la télé. Je ne suis pas là.
Ils sont au stade. Qu'est-ce qu'ils fassent?
Avoir une conversation, un échange, pas pour avoir raison, mais juste pour exprimer une opinion, comprendre la sienne, des fois, avec les gens des médias, c'est juste impossible.
Et surtout, à qui tu parles?
Oui, c'est
ça. Ne demande pas à Olivier Brett de prendre des décisions. C'est pas sa job.
Alors,
Olivier Brett, il est là pour produire du contenu. Il est payé pour ça. Lui, il doit suivre la ligne directrice que la compagnie lui dit de faire. Mais lui, pardon, je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, là. Je ne veux pas dire des bêtises. il travaille dans un cadre spécifique, puis il produit du contenu à l'intérieur de ce cadre-là. C'est aussi simple que ça. Il peut pas dire hey, RDS checké 89, je vais faire une émission hybride radio télé RDS 89 Sport, mais je fais ça live sur Facebook et TikTok. Non, ça marche pas. Il peut le faire tout seul pour son propre compte, mais il peut pas impliquer les différentes entités.
Il est sur TikTok, ça serait malin.
Mais il est sur TikTok.
Yeah, oui.
Il envoie un TikTok. Oui. Oh.
Et est-ce qu'il danse?
Non.
Il fait pas les. Il fait pas. Comment qu'est-ce que ça s'appelle? Là, quand j'ai besoin de mon ado, il est pas là.
Non, il danse pas. Non, il danse un peu. Je l'ai vu sur TikTok il y a deux jours.
Fait des moves avec les mains?
Non, pas ça encore.
Camilo.
Mais...
Arrête.
Mais c'est pour dire. Il faut déjà choisir ton interlocuteur, comprendre quel est le rôle de ton interlocuteur par rapport à la couverture médiatique. Et en même temps, excusez-moi les gars, patreon.com/CalFootballClub, si vous voulez supporter, avoir plus de contenu, donnez-nous 500 Patreon et vous allez voir comment ça va. Le contenu va changer parce qu'on peut produire au Canal+. C'est pas compliqué. Tu veux que la presse donne plus d'articles? Va lire nos articles. Tu veux avoir plus de. Enfin, tu veux que le podcast TVA Sport, comment il s'appelle? Le 11 Montréal. 11 Montréalais?
Ouais.
11 Montréalais. Soit le plus populaire à travers toute la province ou peut-être à travers tout le continent américain, écoute-les. Va consommer leur sponsor. C'est pas compliqué.
C'est sûr qu'à
chaque fois... Il faut que tu l'exprimes positivement. Il faut pas juste dire quand c'est négatif. Il faut que tu l'exprimes positivement puis exprime ton besoin de façon claire. C'est quoi ton requis? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le résultat final que tu recherches? Puis on va te le fournir. Mais si tu consommes pas, tais-toi.
Ouais. C'est un gros sujet. Mais on va falloir qu'on parle avec quelqu'un des médias là-dessus.
Plusieurs personnes, plusieurs podcasts, plusieurs CCP. Non, mais c'est fatigant parce que en 2012, c'était un bon débat. 2014, c'était le fun. 2016, ok. Drogba a pas mal tout fait exploser par lui-même. Maintenant, sois un peu plus spécifique quand tu dis qu'on va être médiatique. Puis that's it. Bitch la bonne personne, le bon média, n'implique pas tout le monde parce que nous, on ne sait pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Littéralement, avec le temps qu'on donne, on fait du négatif en termes de revenus. Littéralement, c'est grave. Nous sommes le mardi 3 mars, il est 9h40. Le soir, on est au Myland en train d'enregistrer dans un café. Va savoir.
Aujourd'hui, on a perdu de l'argent.
Patreon.com/CalFootballClub.
Est-ce qu'on a fait le tour là?
C'est fini, on arrête?
Est-ce qu'on a terminé? La game des Canadiens est finie. Dans le fond, on était ici pour voir la game des Canadiens.
Il y a du basket. C'est Olivier Meilleur Tremblay qui aime le basket de Radio-Canada?
Mais tous les milléniaux aiment le basket.
Non, mais c'est. Comment ça s'appelle? C'est Olivier Meilleur? Le gars de Radio-Canada.
Il y a trop d'Olivier.
Pas Olivier Tremblay, l'autre, avec la barbe.
Olivier
Meilleur.
Oui.
Non, c'est pas Meilleur, lui. C'est Olivier.
Quand on a parlé, je vais le trouver.
Trouve-le, en tout cas. Non, juste pour dire, honnêtement, la couverture médiatique, ça m'emmerde un peu, là, parce que c'est trop général comme débat. Il faut juste le préciser.
Paradis le mieux.
Olivier Paradis le mieux.
Voilà. Bah oui, avec sa nouvelle coupe de cheveux, toute, là.
Non, mais
parce que là, sa coupe de cheveux, elle est radio-canadienne.
Ouais.
Mais quand on le voit à la télévision, il était beau.
Ah, quel beau gosse.
C'était beau.
Donc c'est ça, donc Nilton.
Yep.
Je suis épuisé avec les scoops.
Ah ouais.
Faut qu'on arrête.
Demain on en sort un autre?
Non, je sais pas. On fait quoi si on discoupe l'été, on va être en vacances?
On
n'aura pas le temps.
Ben non, on l'a pareil. On m'a appelé à Madrid pour Rémi Garde.
C'est vrai, 4 ans, là.
Tu aurais dû voir la face de ma gang là.
Ben, pardon, en vacances?
Ah, quoi? Tu vas activer tes données pour parler? Quoi?
Quoi? Mal.
Tu vas encore perdre de l'argent.
C'est fou, man. C'est fou. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci d'avoir posé vos multiples questions. Je pense qu'il y a des centaines de questions. Merci encore. Si on n'a pas pu répondre à vos questions, on est désolé, mais on va essayer de répondre sur Twitter à travers la semaine. On aura amplement le temps. Et puis, merci de vous écouter. Couscous Piri Piri. Trouvez-nous, Couscous Piri Piri, sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Google, Castbox, Spreaker, whatever. Juste inscrivez-vous au podcast. Si vous êtes sur iTunes, laissez un commentaire et un 5 étoiles. Supportez le Cal Football Club, patreon.com/CalFootballClub, et puis voilà quoi. Sofiane Benzaza sur Twitter, Nilton George, Nilton comme Nancy, J comme Jean, O-R-G-E, Nilton George sur Twitter, puis aidez-nous, supportez-nous, parlez de nous, donnez-moi des retweets, ça aide mon ego et ça me donne un boost de dopamine, donc il faut m'aider avec ça. Je pense que ce son va être dégueulasse hein, sur ce truc-là. Donc, je suis désolé pour le son de tout le monde. Puis,
c'est une belle conclusion
au podcast. Merci tout le monde, puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.